tout de suite, retrouvons la chronique Histoire de cinéma de Jean-Philippe Gunet.
Le 3 octobre 1993, en Somalie, près de 160 soldats américains partent pour un raid éclair en pleine ville de Mogadiscio, destiné à capturer deux lieutenants du seigneur de guerre, Mohamed Farah Aidid. Lorsque deux hélicoptères Black Hawk sont abattus par les miliciens somaliens, la mission dégénère en un sanglant combat de rue qui dure une quinzaine d'heures. Au final, l'objectif des Rangers et de la Delta Force est atteint, mais il compte 18 morts et 73 blessés, et surtout, les images de cadavres de soldats traînés dans les rues de Mogadiscio font le tour du monde. L'opinion américaine est traumatisée et garde le souvenir d'un désastre. Journaliste au Philadelphia Inquirer, Mark Bowden relate les faits dans un livre qui paraît en 1999, Black Hawk Down, A Story of Modern War. Le réalisateur Simon West, qui venait de signer Les Ailes de l'Enfer, voudrait le porter à l'écran et suggère au producteur Jerry Bruckheimer d'en acheter les droits. Mais courant 2000, West part diriger Lara Croft Tomb Raider. Pour le remplacer, Bruckheimer sollicite Ridley Scott, qui termina Hannibal. Si le scénario est confié à Ken Nolan, il fait l'objet de multiples réécritures. Steven Zalian, Eric Roth et Steven Gagan participent au processus. L'acteur Sam Shepard, qui incarne le général Garrison, commandant en chef des troupes américaines en Somalie, écrit lui aussi quelques dialogues. Ken Nolan est présent sur le plateau pendant 4 mois. Suivant les règles de la guilde des scénaristes, il sera le seul crédité. Pour interpréter les différents soldats, la production engage des acteurs américains comme britanniques. Le rôle principal est confié à Josh Hartnett. Révélé par le film Chopper, l'Australien Eric Bana fait ici ses débuts dans une production hollywoodienne. Autour d'eux, on retrouve Tom Sizemore, William Fichtner, Jason Isaacs, deux comédiens de Trainspotting, Ewan McGregor et Ewan Bremner, Tom Hardy, la future star de Mad Max Fury Road, et aussi Orlando Bloom qui venait de finir la trilogie du Seigneur des Anneaux. Le film se fait avec le soutien du Pentagone. La vraie unité d'hélicoptères qui a combattu en 1993 fournit les Black Hawk, le matériel et quelques-uns de ses hommes comme figurants. Certains refont pour le film les actions qu'ils ont effectuées dans la vraie bataille. Les Rangers et les forces spéciales donnent aussi aux acteurs une formation militaire de base. Ce soutien logistique du Pentagone était essentiel pour reconstituer les faits avec l'authenticité voulue. Mais il a un prix. Le département de la Défense a un droit de regard sur le scénario. Même si la production du film s'en défendra plus tard et parlera de décisions prises pour des raisons artistiques, certaines scènes sont coupées au montage pour ne pas nuire à l'image de l'armée américaine, notamment une ou deux unités se tirent dessus par erreur. Pour échapper à ce contrôle, il faut se passer du Pentagone. C'est ce qu'ont fait Francis Ford Coppola pour Apocalypse Now, Oliver Stone pour Platoon et Terrence Malick pour La Ligne Rouge. Alors que la plupart des personnages sont les soldats qui ont pris part à la bataille, celui que joue Ewan McGregor a son nom changé. L'homme dont il s'inspire s'est bien distingué au combat ce jour-là, mais il a été condamné depuis à de la prison pour violence sur enfant, d'où la volonté qu'il n'apparaisse pas dans le film sous son vrai nom. Le sergent d'élite de la Delta Force, incarné par Eric Bana, a lui aussi un nom inventé pour protéger l'anonymat du soldat qu'il incarne, encore en service actif à ce moment-là. Le tournage étant impossible en Somalie, il se déroule au Maroc, de mars à juin 2001, dans les villes de Salé et Rabat. Depuis Gladiator, Ridley Scott a noué de bonnes relations avec le roi Mohamed VI. Le monarque a donc donné son autorisation pour ce qui est non seulement un tournage, mais surtout le plus gros déploiement d'unités militaires étrangères dans le pays depuis la Seconde Guerre mondiale. Une fois en uniforme, les acteurs sont difficiles à reconnaître. Ridley Scott décide de faire inscrire le nom de chaque personnage sur son casque, une chose qui n'arriverait jamais dans la réalité, mais que le cinéaste juge nécessaire pour que le récit soit compréhensible. La chute du Faucon Noir sort aux États-Unis en décembre 2001, juste à temps pour pouvoir être présenté aux Oscars. Il débarque en France en février 2002. Le succès au box-office est au rendez-vous, 173 millions de dollars à travers le monde, alors que le coût est estimé à 90 millions. Aux Oscars, le film est nommé dans 4 catégories et repart avec 2 statuettes, meilleur montage et meilleur son. S'il n'a pas réussi à faire oublier Il faut sauver le soldat Ryan, le coup de maître de Spielberg qui a modernisé d'un coup les films de guerre, La chute du Faucon Noir n'en a pas moins marqué par sa peinture brutale et sans merci des combats. De ce point de vue, il est autrement plus crédible que le caricatural Nous étions soldats, sorti quasiment en même temps. Pour autant, La chute du Faucon Noir comporte une part d'ambiguïté. Lorsque je l'ai interviewé en 2012, le scénariste Ken Nolan m'a expliqué qu'il avait écrit le film avec l'idée de dénoncer l'horreur de la guerre. Mais en même temps, il m'a aussi raconté cette anecdote d'un jeune homme qu'il a abordé spontanément pour le remercier, en disant que c'était ce film qui lui avait donné envie de s'engager dans l'armée. Et c'est un vétéran américain de la guerre d'Irak de 2003, aujourd'hui militant pacifiste, qui m'a donné la clé. Si La chute du Faucon Noir montre des choses terribles, il porte aussi une image ultra valorisante du métier de soldat. Combattre comme l'ont fait ces soldats américains, c'est ce que font les vrais hommes, disait-il. Ambigu dans son propos, La chute du Faucon Noir a tout de même prolongé la modernisation du genre entamée par Il faut sauver le soldat Ryan et qui s'est poursuivie plus tard avec des films comme La ligne rouge, Windtalkers les messagers du vent ou encore le récent Tu ne tueras point. La guerre, il n'est désormais plus possible de la filmer à l'ancienne comme ça se faisait dans les années 50 et 60. Un certain niveau de réalisme est indispensable.
C'était Histoire de cinéma par Jean-Philippe Gunet. Une chronique que vous pouvez retrouver les mardis et jeudis à 9h et 15h sur Art District.